Aujourd'hui, nous recevons le professeur Axel Kahn. Le professeur Axel Kahn est né en 1944. Il est spécialiste de génétique moléculaire, directeur du laboratoire de recherche en physiologie et pathologie génétique et moléculaire à l'INSERM. Il est membre du comité consultatif national d'éthique. Il a publié notamment « Société et révolution biologique pour une éthique de la responsabilité » aux éditions de l'INRA en 1996, « La médecine du XXIe siècle, des gènes et des hommes » chez Bayer Press en 1996 et « Copie conforme, le clonage en question » chez Nicole Lattès en 1998. Professeur, je vous laisse donc la parole pour 50 minutes, après quoi il y aura un débat. Je vous remercie.
Je me sers de ce micro, mon frère. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous présentez les enjeux de la génétique en 50 minutes, c'est un défi et cela va m'obliger à aller droit à l'essentiel. La génétique, tout d'abord, définition. Il s'agit de la science de la transmission des caractères héréditaires. En tant que science, elle est jeune, vous le savez, datée précisément, 1865, Moravig, Gregor Mendel, dont les travaux sont très peu repris. Et l'on peut considérer que la connaissance de la génétique par la communauté scientifique débute en réalité simplement au tout premier jour du XXe siècle, lorsque des botanistes hollandais, Hugo de Vries notamment, redécouvrent, tout à fait indépendamment des travaux de Mendel, ces lois de la transmission des caractères héréditaires. Appliquées à l'homme, l'objet de la génétique semble avoir des résonances toutes particulières avec, je pourrais dire, l'âme ou bien le psychisme humain, et cela probablement depuis les premières sociétés humaines. En effet, appliqué aux êtres humains que nous sommes, quelles questions se pose la génétique ? La génétique cherche à déterminer ce que nous sommes biologiquement, ce en quoi nous sommes semblables, mais également différents d'autrui. En quoi avons-nous reçu ce que nous sommes de nos ascendants, de nos parents, de nos ancêtres? Qu'allons-nous transmettre à nos enfants? Ce sont des interrogations qui très probablement structurent l'édification d'une personnalité humaine aussi loin que l'on puisse remonter. Et pourtant, ça n'est pas la génétique qui va avoir les plus grandes implications social, politique, individuel, idéologique, philosophique. C'est la théorie de l'évolution qui lui est antérieure. Théorie de l'évolution, on vous l'a dit dans les cours qui ont précédé, Jean-Baptiste Lamarck, 1800-1809, et Charles Darwin, Origine des espèces, 1858-1859. Pour quelles raisons ? Eh bien, la raison en est très simple. La génétique parle d'un programme. Elle parle d'une base moléculaire des caractéristiques des individus. Elle pourrait dire, d'une certaine manière, que nous sommes programmés, c'est-à-dire que le destin est écrit dans la langue de nos gènes, de notre génome, imprimé dans le livre de nos chromosomes. Mais ça n'est pas une révolution. L'homme, depuis tout temps, est persuadé que le destin est écrit. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il cherche à le connaître. La Pythie de Delphes, l'oracle qui dit à Édipe quel sera son destin funeste et implacable, le destin des Atrides, était écrit. Bien longtemps après, les auteurs sont pleins de cette hérédité, non seulement des propriétés biologiques, mais encore des destins de ce qui se passe. Et je vous renvoie notamment à Émile Zola et au Rougon-Macquart, qui, de génération en génération, transmettent, là encore, une sorte de malédiction qui, cette fois-ci, est devenue biologique. Donc, la génétique dit effectivement, le destin est écrit, et peut-être maintenant, savons-nous où et comment, en quelle langue, et on est en train de la déchiffrer. En revanche, la théorie de l'évolution est beaucoup plus perturbante. La théorie de l'évolution est très certainement le second prodigieux décentrement de l'homme. Le premier décentrement est la révolution copernicienne au XVIe siècle. Auparavant, la Terre et l'homme sont au centre de l'univers, le géocentrisme, avec Copernic, tout à la fois homme et Terre sont chassés quelque part à la périphérie. Mais au moins, l'homme reste créé à l'image de Dieu au sommet de la création. Et voilà qu'à partir de 1800-1859, tout cela s'écroule. L'homme cesse d'avoir un privilège particulier au sein de la création. Il est l'un des avatars de l'évolution, l'un des avatars possibles. Par conséquent, il n'est plus créé à l'image du Créateur s'il n'y a plus de création immédiate. Et, en définitive, les enjeux de la génétique dont je vais vous parler sont les enjeux modifiés par la science génétique, mais les questions qui ont commencé d'être posées par le caractère fracassant de la théorie de l'évolution. Ce sont ces idéologies du XIXe siècle qui ont si profondément marqué notre temps, la fin du XIXe et tout le XXe, et dont il n'est pas sûr qu'elles ne marquent pas encore le XXIe. En effet, que dit la théorie de l'évolution dans sa présentation par Charles Darwin ? Elle dit que l'évolution se fait par la sélection au sein d'une diversité biologique de ceux des êtres qui sont les mieux adaptés. La lutte pour la vie, qui sera bientôt présentée par des philosophes contemporains de Darwin comme la survivance du plus apte, et avant tout par Herbert Spencer. Par conséquent, les individus, les êtres vivants, plantes ou animaux qui persistent, sont ceux qui étaient biologiquement les plus aptes à persister. Ils sont déterminés pour être les vainqueurs. Mais chez les hommes aussi, il y a des vainqueurs et des vaincus. Il y a des forts et des faibles. Il y a des colonisateurs et des colonisés. Puisque les mêmes lois de l'évolution s'appliquent partout, elles doivent s'appliquer à l'homme, et le déterminisme de l'aptitude à vaincre existe de la même manière. Quelle magnifique justification de la victoire des vainqueurs, du potentiel colonisateur des colonisateurs et, à la limite également, de l'attitude des esclavagistes. Par ailleurs, les sociétés animales se structurent en fonction de déterminants biologiques. Mais il existe également une société humaine. Pour quelles raisons les lois fondant la structuration des sociétés animales, les fourmilières, les ruches, les sociétés d'oiseaux, ne s'appliqueraient-elles pas également à l'homme? Et au XIXe siècle, une théorie évolutionniste est à la base de ce qui deviendra, en 1976, sous la plume de Edward O. Wilson, la sociobiologie. Des lois biologiques existent qui conditionnent les qualités individuelles et la structuration en société de tous les êtres vivants, y compris de l'être humain. Ce qu'il advient aux sociétés humaines est fait de nature, biologiquement déterminée. Puisqu'il y a évolution, peut-être existe-t-il des groupes ethniques à différents stades de leur évolution, les uns étant plus évolués que les autres. Modification du racisme. Darwin lui-même était très loin de toutes ces interprétations de sa proposition des mécanismes de l'évolution. Il était profondément un humaniste. Il fondait même que la sélection de l'homme était une sélection de l'aptitude au sens moral, et que dès lors, ce sens moral atténuait les rigueurs de la sélection naturelle et de la lutte pour la vie. Mais de son temps, parmi les darwiniens, seul Darwin, pratiquement, était sur ses positions, il faut bien le dire. Et notamment son cousin Galton, inventeur du mot « l'eugénisme », interprète tout à fait différemment les conséquences de la lutte pour la vie. Pour lui, s'il est vrai que l'homme a été sélectionné du fait de son aptitude à avoir un sens moral, ce sens moral va l'amener effectivement à ne pas appliquer dans toute sa rigueur les conséquences de l'évolution, c'est-à-dire à cesser d'éliminer les plus faibles, les malfaits. Et par conséquent, si on n'y prend pas garde, eh bien la société humaine va être totalement bouleversée avec une accumulation de gens de qualités inférieures qui n'auront pas été éliminés par la sélection naturelle, dont les mécanismes ont été... Veuillez m'excuser, je remets cela. Dont les mécanismes ont été modifiés par la civilisation. Vous voyez que eugénisme, racisme, sociobiologie, déterminisme sont les fruits de la théorie de l'évolution et pas du tout de la révolution génétique. En réalité, ce sont les fruits de conceptions mentales humaines bien antérieures. Car on peut trouver dans la Grèce antique, par exemple, dans Platon, des racines de l'eugénisme dans la République de Platon, ou bien dans Aristote, des racines du racisme. Le déterminisme, je vous l'ai dit, a toujours existé, puisque les Grecs pensaient que le destin était écrit. Ce qui se passe au XIXe siècle est un phénomène extrêmement important, qui est le moment à partir duquel une nouvelle découverte scientifique s'agrège avec un préjugé antérieur pour en modifier la forme d'expression. C'est ce que Georges Canguilhem appelle la structuration d'une idéologie. Georges Canguilhem, le philosophe, disait qu'une idéologie était une croyance qui lorgnait, louchait du côté d'une science établie pour en accaparer le prestige. Donc ce qui se passe au XIXe siècle, c'est la transformation en idéologie de ces prémices de l'eugénisme, du racisme, du déterminisme. Et la génétique va à nouveau marquer son empreinte. D'abord, elle marque son empreinte génétique et son empreinte scientifique. Darwin ne savait pas du tout quelles étaient les bases de cette diversité biologique des êtres au sein desquels opérait la sélection naturelle. Et il imaginait d'ailleurs fort bien, comme Darwin lui-même, que ce put être l'hérédité des caractères acquis, car la notion d'hérédité des caractères acquis, contrairement à ce que l'on pense, ne sépare pas du tout Darwin de Lamarck. Les deux y croient, la seule différence c'est que pour Lamarck c'est le moteur de l'évolution, alors que pour Darwin ça n'est pas le moteur de l'évolution, mais l'une des bases éventuellement de la diversité biologique qui permet la sélection du plus apte. La génétique va apporter le mécanisme possible, probable, de cette diversification biologique. Ce sont les mutations géniques. Et le darwinisme transformé par la génétique prend un nom qui est la théorie actuelle de l'évolution. C'est la théorie synthétique de l'évolution ou néo-darwinisme. Selon cette théorie, en permanence, les propriétés des êtres se diversifient par mutation des gènes qui conditionnent les caractéristiques des êtres. Et au sein de cette diversité, la sélection opère en fonction du milieu pour favoriser ceux qui sont les plus aptes à se diviser, à proliférer. Une lecture particulièrement réductionniste du darwinisme au tout début du XXe siècle et surtout à partir de 1930 va aboutir à ce que le grand vulgarisateur de la biologie Richard Dawkins appelle la théorie du gène égoïste. Selon cette théorie, l'évolution ne sélectionne plus des individus selon leur aptitude à se diviser, à se multiplier, à procréer dans un environnement changeant, mais représente, est la conséquence de la propension des gènes eux-mêmes à se perpétuer. L'évolution est entièrement conditionnée, elle est mue par l'égoïsme des gènes qui, indépendamment de tout souci des propriétés biologiques des êtres qui les portent, veulent simplement se multiplier. Et de fait, on peut voir les mécanismes de l'évolution sous son versant génétique. L'évolution, la propension dans l'évolution, est une propension à la reproduction de ces gènes. Simplement, cette vision réductionniste du darwinisme associée à la sociobiologie a des conséquences tout à fait étonnantes. Si la sociobiologie, c'est la connaissance des règles biologiques qui conditionnent la structuration des sociétés, y compris des sociétés humaines, et si cette sélection sur base biologique reflète uniquement l'égoïsme du gène, dans ce cas-là, le gène égoïste devient l'alibi de l'égoïsme social, puisque c'est lui qui est à la base de la structuration des sociétés. Et nous vivons aujourd'hui, depuis la guerre, depuis après-guerre, dans une grande partie des théoriciens de la théorie de l'évolution, cette notion selon laquelle le gène égoïste est bien le moteur de l'évolution, mais dans ses conséquences socio-biologiques, est également le moteur de la caractérisation de nos sociétés et également, d'ailleurs, de la société humaine. L'eugénisme lui-même va être modifié considérablement avec l'apparition de la génétique, car son propos deviendra ce que les communautés humaines doivent mettre en œuvre pour essayer d'améliorer la réunion des bons gènes dans les lignages humains et diminuer la transmission des mauvais gènes. Le racisme lui-même va être modifié. Le racisme avec la génétique devient la différenciation des races selon qu'elles portent plus des bons gènes ou des mauvais gènes. Et si l'eugénisme consiste à éliminer les mauvais gènes et que les mauvaises races ont des mauvais gènes, le nazisme l'interprète comme vous le savez, cela revient à l'élimination des mauvaises races caractérisées par ces mauvais gènes qu'il faut éliminer. Si je reprends un tout petit peu en résumé, je vous ai, en quelques mots naturellement et avec énormément de raccourcis dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, je vous ai explicité ce qu'est la structuration d'une idéologie et la transformation progressive d'une idéologie au rythme de l'évolution de la science. Ça n'est pas la science qui a créé ces préjugés, d'aucune manière. Naturellement, la science modifie la nature du préjugé et par conséquent, éventuellement, ses conséquences. Progressivement, théorie de l'évolution génétique. Après-guerre, l'observation, la reconnaissance des horreurs, des abominations qui ont été pratiquées, pas au nom d'eux, mais se servant de l'alibi de la biologie, de la théorie de l'évolution et de la génétique, amène à une volonté de désengrener totalement, aussi complètement que possible, la recherche scientifique en génétique de ses bases eugéniques, socio-biologiques, déterministes. Et c'est la grande période des plus grands succès de la génétique que l'on vous a rappelé, découverte de l'ADN, découverte de la double hélice, découverte de l'universalité du code génétique, et en 1972-73, découverte du génie génétique. Je saute directement au génie génétique. Le génie génétique, c'est la capacité qu'a acquis l'homme de pouvoir soumettre n'importe quel être vivant à l'expression du programme génétique d'une partie au moins d'un autre être vivant par transfert de gènes. En d'autres termes, un gène de n'importe quelle plante transféré chez un animal, un gène de n'importe quel animal transféré dans une plante avec quelques petites modifications, va pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire commander l'apparition d'un caractère. Et ça, c'est révolutionnaire techniquement, mais pas du tout théoriquement, car c'est une conséquence tout à fait normale de la théorie de l'évolution. En effet, la théorie de l'évolution dit que tous les êtres vivants dérivent les uns des autres. S'il est vrai que tous les êtres vivants dérivent les uns des autres, il est bien normal que les mécanismes génétiques qui président au fonctionnement de ces êtres vivants dérivent également d'un mécanisme initial et que, notamment, les formes d'expression du génome soient conservées. En 1961, on avait découvert que le code génétique était universel, c'est-à-dire que l'on pouvait transformer la connaissance de la structure des gènes dont vous a parlé Jean Weissenbach il y a peu de temps en la compréhension des propriétés biologiques que commandaient ces gènes suivant les mêmes règles entre la bactérie colibacille, la plante, l'éléphant et l'homme. Le génie génétique, par conséquent, n'est absolument pas une révolution conceptuelle, mais c'est vraiment une révolution technique, puisque c'est le génie génétique qui permet tout ce que fait aujourd'hui la génétique et ce dont je vais maintenant vous parler. Tout d'abord, le génie génétique, plus encore qu'on ne le savait auparavant, marque bien que d'un point de vue des mécanismes biologiques, l'originalité de l'homme est faible. Quiconque sait étudier, manipuler, cloner, transférer les gènes de colibacille ou bien de la plante Arabidopsis thaliana, qui est la plante modèle qu'utilisent les généticiens moléculaires des plantes, sait le faire aussi bien chez l'homme. Car les mécanismes sont les mêmes, les mécanismes cellulaires, les gènes. Rien ne ressemble plus à un ADN de plante qu'un ADN humain, sinon un ADN de bactérie. Tout cela, c'est très similaire et ne fait que reproduire, au fil de la diversification des espèces, ces mécanismes initiaux. Si bien que, si l'on désire se poser la question, et on désire se la poser, de l'originalité, de la spécificité du genre humain, de notre espèce, ça n'est certainement pas dans la structure de ces gènes qu'on peut le trouver. Et là, il y a encore, d'ailleurs, des fantastiques illusions sur lesquelles je reviendrai. Pour bien illustrer le bouleversement qui est lié au génie génétique et à ses possibilités, c'est à travers les dessins des programmes génomes que je peux le mieux m'exprimer. Jean Weissenbach vous a présenter ce qu'étaient les programmes génomes. Donc, vous vous rappelez probablement, pour ceux d'entre vous qui étiez déjà là, que d'ici la fin de l'année, une société privée dirigée par le docteur Craig Venter, Celera probablement, mettra, pas dans le public, mais nonobstant espèce sonnante et trébuchante, à disposition la connaissance de l'enchaînement des lettres qui forment les gènes représentant 95 à 98% du génome. Et on connaîtra raisonnablement bien ce génome, un génome moyen naturellement, pas celui de chacun d'entre nous, un génome moyen d'ici 2002-2003. Ce programme génome, que va-t-il permettre de faire et quel problème éthique cela pose-t-il ? Le programme génome, cela permet de répondre à des questions que, là encore, l'homme probablement se pose depuis la nuit des temps. C'est un moyen de comprendre, de prédire, de transformer et une illusion que l'on peut créer. Comprendre, le mythe du savant, prédire, le mythe du devin, transformer, le mythe du magicien, créer, le mythe suprême, le mythe prométhéen. Comprendre, en effet, les programmes génomes sont un raccourci étonnamment efficace vers la compréhension des propriétés des cellules vivantes. Non pas que la biologie se résume d'aucune manière à la connaissance des gènes, mais puisque de l'enchaînement des gènes qu'il est facile de déterminer, on peut en déduire la nature des molécules actives des cellules, les protéines. L'on peut également fabriquer ces protéines en quantité par les méthodes du génie génétique. En transférant un gène humain dans une bactérie, on commande à la bactérie de faire des grammes ou des kilos de la protéine dont on peut dès lors étudier toutes les propriétés. Il n'y a pas de moyen plus rapide, plus efficace pour connaître les propriétés des cellules vivantes et des organismes que l'étude du génome. Avec les possibilités, avec les solutions que cela apportera à des problèmes d'ordre environnementaux, agricoles ou médicaux. Là, je ne vois pas véritablement d'enjeu éthique. Je fais partie de ceux qui considèrent que s'il est une interdiction qui soit légitime, c'est bien l'interdiction, c'est toujours le même, c'est bien l'interdiction d'interdire de connaître. Il est interdit d'interdire de connaître, et je crois qu'une des libertés essentielles, liberté de l'homme, c'est la liberté de répondre aux questions que nous nous posons, dont aucune n'est illégitime. Sa légitimité à cette question est d'ailleurs que nous nous la posions. Une fois que j'ai dit cela, c'est-à-dire que j'ai rappelé ce qui est évident, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que la liberté d'accès à la connaissance est une liberté très importante, j'ajoute immédiatement que cette liberté connaît les mêmes limites que les autres libertés, c'est-à-dire qu'elle cesse là où elle pourrait empiéter sur la liberté d'autrui, sur sa sécurité, sur sa dignité, sur sa liberté. En d'autres termes, cette liberté d'accès à la connaissance ne signifie pas la liberté d'y accéder n'importe comment, sans s'occuper de la liberté, de la sécurité et de la dignité des autres. Prédire, prévoir. En effet, le mythe peut exister que la base moléculaire du destin écrit des Grecs, ce sont les gènes et que l'on est en train de les connaître. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Je vais commencer par les enjeux éthiques et les difficultés éthiques de tout le champ à travers lequel cette prétention est relativement vraie. Le programme génétique, le programme des gènes, si on était capable de le connaître, est bien un programme relativement déterministe des propriétés biologiques des cellules. Ce point est des fois contesté, mais est singulièrement contesté par des gens qui ne montrent pas beaucoup de rigueur intellectuelle, me semble-t-il. Ils disent que la génétique n'est jamais déterministe dans la mesure où un gène à lui tout seul ne suffit pas à déterminer une propriété. Bien évidemment, mais il en va de même de n'importe quel programme, même un programme informatique. Le programme informatique qui, dans un pilotage automatique, dit à un avion là où il doit aller, ne permettra à l'avion d'y aller que s'il n'interfère pas négativement avec un autre programme et si l'avion en route n'en rencontre pas un autre et n'explose pas. Tout programme, dans son expression et ses résultats, dépend d'interférences avec le milieu extérieur. Et il en va de même exactement du programme génétique qui, néanmoins, mérite d'être appelé un programme génétique. On est bien loin d'en connaître réellement toute la signification, car ce programme génétique, cette propriété biologique, va dépendre du jeu extrêmement complexe, combinatoire de cette grande quantité de gènes. Dans un génome humain, on vous l'a dit, il y a entre 80 000 et 140 000 gènes, et dépendra aussi de l'environnement. Un gène n'aura pas la même signification, n'entraînera pas les mêmes résultats selon l'environnement. Il n'empêche que la connaissance de ce génome permet de prédire des anomalies biologiques, des maladies, dans deux circonstances que je résumerai très rapidement. Tout d'abord, avant la naissance, le diagnostic prénatal. Je n'ai pas le temps, parce que ce pourrait faire l'objet d'un séminaire en soi, de traiter longuement de cela, et je prendrai quelques cas. Un diagnostic prénatal n'est justifié naturellement que si, de son résultat, l'on peut tirer soit un traitement, soit une interruption de grossesse que l'on considère moralement légitime. Même dans le cas où l'on considère qu'une interruption de grossesse est moralement légitime, elle n'est jamais un succès plein de la médecine. Le succès de la médecine est de guérir. Ça n'est pas d'éviter qu'advienne une vie. Il n'empêche que l'on considère que dans certaines conditions, lorsque un enfant doit être programmé uniquement à la souffrance et à la mort rapide, avant que de s'épanouir réellement, de connaître le bonheur, en entraînant souvent dans sa détresse et dans son malheur toute sa famille, eh bien, que la famille ait la possibilité d'éviter que n'advienne cette grossesse, que cet accouchement-là, cet enfant-là, ait au moins un moindre mal. Il n'empêche que les difficultés dans les cas limites sont multiples, et je parlerai de trois cas limites. On sait de mieux en mieux que de nombreuses maladies génétiques, et souvent des maladies génétiques que dans notre jargon nous appelons à pénétrance forte, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un gène muté est presque certain ou a au moins un risque très important de faire la maladie, mais très tard dans sa vie. Il y a des formes génétiques de la maladie d'Alzheimer qui sont vraiment génétiquement déterminées, mais la maladie apparaît après 50 ans, après 55 ans, après 60 ans. Il y a une maladie neurologique caractérisée par des mouvements anormaux que l'on appelle la chorée de Huntington, qui apparaît après 40 ans. Il y a des susceptibilités génétiques au cancer, où le risque de faire le cancer varie entre 50 et 75%, mais le cancer se développe souvent après 35, après 40 ans. La question se pose, que faire de ces diagnostics? Et à cette question, il n'y a pas de réponse de nature morale, c'est-à-dire de réponse dont on puisse dire très clairement « voilà ce qu'il est bien de faire et voilà ce qu'il est mal de faire ». Prenons une de ses affections, la chorée de Huntington ou la maladie d'Alzheimer. Éviter, en considérant que l'avortement se peut, qu'advienne une vie qui ne va se dégrader que 40 ans, 55 ans après, c'est considérer qu'une vie qui ne s'épanouit que pendant 40 ans ou 55 ans ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais comme au début du siècle, l'âge moyen de mort était 40 et 55 ans, toutes les vies brillantes que nous avons en mémoire se sont pratiquement effondrées, évanouies auparavant. Je cite comme cela Schubert, le peintre Géricault, Mozart, le mathématicien Évariste Galois, et je pourrais passer la soirée à débiter ma litanie. Donc, position difficile. Par ailleurs, si aujourd'hui je décide qu'un enfant ne doit pas venir au monde, parce que je connais le gène d'une maladie qui va entraîner sa souffrance, sa déchéance éventuelle après 40 ans, cela ne manifeste pas de ma part un grand souci et un grand optimisme quant à l'évolution de la médecine, car cela veut dire que je crains que dans 40 ans, connaissant ce gène, je sois toujours incapable d'éviter que ne survienne la maladie et la guérir. Position également difficile à tenir. Donc, si vous m'entendez, vous en concluez, bon, M. Kahn nous a bien dit que dire qu'il fallait, que l'on pouvait admettre, légitimer un avortement dans ces conditions, c'est pas possible. En réalité, il y a des familles où les jeunes couples, l'homme, la femme, ont vu autour d'eux leur père, leur mère, leur oncle, leur tante mourir de maladies très cruelles, même après 40, 50 ans, et qui ne s'imaginent pas prendre le risque de transmettre à leur enfant le gène de ce destin si effroyable. Et ils préfèrent ne pas avoir d'enfant. Et un diagnostic prénatal, ça leur permet éventuellement de procréer. Autrement, ils n'en auraient pas. Ne faut-il pas le faire alors? Voilà typiquement un premier exemple de ce que l'on appelle une tension éthique, qu'on ne peut surmonter en réalité que dans le dialogue avec des parents, un jeune couple, en fonction de ses antécédents, en fonction de ce dialogue qui doit s'instituer entre une équipe soignante, des généticiens, un médecin, des psychologues et une personne dans le besoin, dans la détresse. Deuxième situation, les maladies psychiatriques ou bien les maladies avec léger retard mental. Aujourd'hui, on ne connaît pas de gène de maladies psychiatriques. Toutes les propositions qui ont été faites ont été invalidées. Cela dit, il pourrait en exister un jour. Et en tout cas, il existe des gènes de retard mental. Il existe des anomalies chromosomiques qui entraînent un retard mental, la trisomie 21, le mongolisme. Et dans mon laboratoire, notamment, nous travaillons sur des gènes qui entraînent des enfants dont le quotient intellectuel ne va pas évoluer au-delà de 75. Alors, que faire avec un tel diagnostic prénatal? Il faut noter que là, l'argument d'aucuns penseront l'alibi que j'ai donné pour justifier éventuellement une interruption de grossesse ne vaut plus. L'argument que je vous ai dit, c'est une vie qui n'est programmée que pour le malheur et la souffrance, éventuellement, je ne dis pas ne mérite pas d'être vécue, car je n'oserais pas dire une chose pareille. Mais en tout cas, on peut comprendre que les parents préfèrent l'éviter. Mais un enfant qui va avoir un quotient intellectuel à 80, et même un mongolien, il pourra vivre parfaitement heureux. Pour ce qui le concerne, parfaitement épanoui. Donc, si on légitime une interruption de grossesse, ça n'est pas sur l'absence de possibilité de joie, de plaisir, que l'on va fonder cette décision. C'est sur une conception normative de l'homme qui pose beaucoup plus de problèmes. Cela dit, là encore, ça n'est pas mon genre d'ailleurs, j'éviterai de jeter la pierre à toutes les personnes, et vous savez que pour le mongolisme, c'est 99% des familles qui décident d'interrompre les grossesses lorsque ce diagnostic a été fait. Parce que notre société est peu tolérante pour ces enfants-là. Jadis, l'idiot du village, moi j'ai travaillé en Afrique à la coopération, l'idiot de la tribu était intégré dans la société. La société était un continuum. Il y avait notamment ces gens-là qui souvent se voyaient dotés de pouvoirs magiques. Ils faisaient partie de la société. Dans notre société moderne, ce que l'on nous dit, c'est que ce qui convient, La seule chose qui soit admissible, c'est la performance. Ce sont les capacités. C'est être fort, c'est être rapide, c'est être bon, c'est être intelligent. Ces enfants, leur destin, c'est l'atelier protégé, c'est l'institut médico-pédagogique. Les parents peuvent ne pas accepter que leur enfant vive dans ces conditions au sein d'une société qui est si peu faite pour les recevoir. On peut également déterminer le sexe. Alors là, il y a tous ceux qui considèrent que les hommes et les femmes, aujourd'hui, avec les moyens contraceptifs, ont des enfants quand ils le veulent. Et donc, ils prennent cette décision-là. Et leur liberté doit encore évoluer. Et lorsque une famille a déjà 4 garçons ou 4 filles, eh bien, si on peut leur permettre à ces couples d'avoir enfin un enfant du sexe différent, pourquoi pas ? Et il y a un débat sur ce point. Ce débat est fondamental. Il est fondamental parce qu'il pose la question de la nature des relations, des droits et des devoirs des parents par rapport aux enfants. Je vous l'ai dit, c'est incontestable qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, c'est qu'on le veut. Pas toujours, mais en tout cas, on a les moyens théoriques de l'éviter. Cela dit, ça n'est pas du tout la même chose de dire que l'on a un enfant parce qu'on le veut et de dire on a cet enfant-là comme je le veux. Ce sont deux propositions qui n'ont rien à voir. Même quand on a un enfant quand on le veut, on a un enfant dont on sait, d'après les lois de la génétique, qu'il sera un autre. Et on considère jusqu'à présent que être parent, c'est justement l'aider à s'appuyer sur cette individualité biologique pour épanouir sa différence, pour se différencier, pour se distancier. Et cet enfant, un jour, ce sera un adulte qui sera à égalité de devoirs et de droits avec ses parents. Deux citoyens. De quel droit des citoyens donnés auraient-ils décidé que cet autre citoyen, même s'il est leur fils ou leur fille, devait être un mâle ou une femelle? Et puis, peut-être, demain, devait avoir les yeux bruns, les yeux verts. De quel droit? L'enfant est-il, même momentanément, la chose des parents? Ou bien n'est-il que ce mouvement tout à fait extraordinaire où souvent, pas toujours, parfois dans l'amour, on veut communier pour créer un autre, pour essayer avec cet autre d'établir de nouveaux liens? Question qui, pour le moins, mérite d'être débattue. J'en termine là avec le diagnostic prénatal et j'en arrive au diagnostic postnatal, la médecine de prévision. Médecine prédictive, dit-on. Chez n'importe qui, personne, enfant, jeune adulte, de plus en plus, on pourra, sur des tests génétiques, savoir s'il a des susceptibilités particulières à des maladies. Susceptibilité à des maladies du foie, susceptibilité au diabète, à l'hypertension artérielle, à l'athérosclérose, au cancer, à l'Alzheimer. On espère que, de la connaissance de ces susceptibilités, on pourra tirer le moyen d'éviter que n'adviennent ces maladies, les prévenir. Et naturellement, à chaque fois que la médecine prédictive, la médecine préventive débouche sur la prévention, c'est simplement un succès de la médecine sur lequel il n'y a strictement rien à dire. Et ces exemples sont nombreux et ils seront de plus en plus nombreux. Il n'empêche que dans l'évolution des sciences, il est constant que le savoir, c'est-à-dire le comprendre les mécanismes, précède souvent de très loin le pouvoir agir. L'exemple que je donne souvent de cela, c'est la météorologie. Comme vous le savez, nous l'avons vécu en France, même quand on sait prévoir une tempête, on ne sait pas encore la prévenir. Eh bien, pour des maladies, pour certaines maladies, il en ira encore très longtemps comme cela. Et dans ces conditions où l'on sait prédire une maladie, qu'on est incapable de prévenir ou bien même de mieux soigner, on se trouve là encore dans une tension éthique particulière, extrêmement difficile. Dans certaines circonstances, néanmoins, le médecin, fort de cette possibilité, peut encore apporter... Décidément, il faudrait... peut encore apporter une aide. Voilà. Imaginez une famille de cancer du sein familial. Les femmes, une jeune femme, sait qu'une sœur a eu un cancer du sein, sa mère a eu un cancer du sein, sa tante a eu un cancer du sein, elle est terrorisée. Elle va voir le médecin et lui demande de subir ce test. Le médecin peut faire ce test et il peut dire à la dame, ou bien, madame, non, vous n'avez pas hérité de ce gène qui a rendu vos parents si susceptibles, et dans ce cas-là, pour elle, il s'agit d'une information qui méritait d'être acquise. Ou alors, il peut lui confirmer qu'effectivement, elle a ce risque. Et même si la manière de transformer cette connaissance en prévention est incertaine, c'est mieux que l'ignorance. Et dans ce cas-là, on voit bien que malgré la difficulté, malgré la perturbation considérable, malgré cette rencontre incertaine entre destin et liberté, est-ce qu'une personne qui est biologiquement déterminée à présenter cette maladie peut se considérer véritablement libre ? Malgré cela, comme je le disais tout à l'heure du diagnostic prénatal, on se trouve presque dans une situation de pis-aller. Le diagnostic vaut mieux que l'ignorance. Cela dit, dans la population générale, il n'y a aucun intérêt à faire ces tests, naturellement, puisqu'on a de la difficulté à transformer ces tests en propositions de santé efficaces, qu'ils coûtent très cher, qu'ils sont déstabilisants psychologiquement pour des gens qui éventuellement ne se demandent rien. Ça, c'est une logique dont je dirais qu'elle est médicale et éthique. Mais cette logique-là n'est pas du tout commerciale. En effet, un test de cancer du sein, compte tenu du nombre de femmes qui pourraient y recourir, un calcul rapide démontre que rien que pour ce test-là, le marché mondial pourrait être de 8 à 40 milliards de dollars. Et tous les droits, soit les licences, soit les brevets, sur ce type de test génétique de maladies fréquentes, sont entre les mains de sociétés privées très bien organisées. Ça, c'est l'autre logique, la logique commerciale du monde réel, du monde vrai, de la vie vraie dans laquelle nous vivons. Et là se pose naturellement une question nouvelle. Cette question est de l'utilisation de cette connaissance du destin biologique des individus en dehors de la sphère médicale. Naturellement, en dehors de la sphère médicale, il y a de nombreuses activités économiques et sociales qui pourraient être friandes de connaître notre destin biologique. L'embauche, le prêt bancaire, l'assurance privée. Et dans toutes ces conditions, il y a une certaine logique. Et là encore, je suis rarement manichéen et je démonise peu les attitudes. On voit bien que l'assureur privé, par exemple, peut dire « Écoutez, si vous voulez une assurance égalitaire, il y a la sécurité sociale pour ça. Moi, je suis un assureur privé, je propose un contrat loyal en fonction de l'évaluation du risque, le test génétique me permet d'évaluer le risque. » Mais ce qui est ennuyeux, c'est qu'avec l'évolution de nos sociétés, la part de cette couverture sociale égalitaire, sécurité sociale diminue, et la part liée au contrat privé augmente. Et si l'on imagine un monde où le prêt bancaire, l'embauche, l'assurance deviendraient assujettis à la connaissance de notre destin biologique, nous serions simplement dans un autre monde, c'est-à-dire que nous aurions cessé d'être dans une société qui fonde que tous les hommes et les femmes naissent et demeurent égaux en dignité et en droit pour en arriver à un monde où, en réalité, les droits et par conséquent la dignité des individus ne dépend plus que de leur génome, un monde effroyablement inégalitaire où ceux d'entre nous qui auraient hérité à la grande loterie de l'hérédité des mauvais gènes seraient doublement malheureux. Malheureux de ce qu'ils ont tiré le mauvais lot et malheureux de ce que, la société le sachant, ils soient gravement limités dans l'exercice simplement de leur citoyenneté. Ça, c'est une possibilité, une réalité, et ce qu'il adviendra dépend vraiment de ce qu'en pensera la société humaine et le jeu démocratique. Déterminisme. Déterminisme, prévision, prévision des autres qualités humaines que simplement les propriétés biologiques. Tous les jours, on lit dans les journaux. On lit dans les journaux qu'on a trouvé le gène de l'homosexualité, le gène de l'intelligence, le gène de la curiosité intellectuelle, le gène de l'alcoolisme, le gène de la sociabilité. On continue. On va par des méthodes que nous connaissons très bien, on va casser le gène d'une petite souris, par des méthodes que l'on appelle de la recombinaison homologue, que l'on pratique couramment, notamment dans mon laboratoire, dans bien d'autres laboratoires. Et la petite souris, dont un gène a été ainsi modifié, perd son instinct maternel. Elle cesse de préparer le nid des souriceaux, de s'en occuper, de s'allonger pour qu'ils têtent, et les souriceaux crèvent. Et on connaît 5 gènes comme cela, et puis ces gènes-là, ils sont conservés à 90% chez les femmes et les hommes. Mais les femmes allaitent et accouchent plus que les hommes, donc parlons des femmes. Donc, on a trouvé les gènes de l'amour maternel chez les souris et chez les femmes. Voilà, tout est dit. Et comme on a également trouvé les gènes de l'agressivité, les gènes de la curiosité intellectuelle chez les petites souris et qu'ils sont conservés chez les hommes et les femmes, eh bien, on vous l'avait bien dit, comme le pensait Francis Galton en 1883, nos qualités sont déterminées par la biologie et maintenant nous savons par quoi, par nos gènes, et maintenant nous savons par lequel, ce gène-là, ces gènes-là. En réalité, je reviens à ma distinction entre idéologie et science, cette lecture de la science est une lecture uniquement idéologique. À chaque fois qu'une interprétation d'une expérience ne fait que confirmer ce dont on était antérieurement complètement convaincu, il faut se méfier, il y a danger. Il y a danger que ce ne soit pas de la science, mais que ce soit de l'idéologie. Et là, c'est typiquement de l'idéologie, en effet. En effet, il y a une confusion grossière entre deux notions, qui est la notion de participation et la notion de détermination. On connaît une maladie génétique chez l'homme rare qui s'appelle la maladie de Leishmanian, peu importe le nom. C'est une forme de goutte, vous savez, c'est cette maladie du gros orteil, mais là, une goutte très grave et génétique. Et cette forme de goutte génétique, liée à une carence en une enzyme que l'on connaît bien, entraîne un comportement psychiatrique tout à fait stéréotypé avec des automutilations. Les enfants s'automutilent, se mangent les doigts, carrément. Et c'est très stéréotypé. Qu'est-ce qu'on va en conclure ? Que l'acide urique qui s'accumule chez les goutteux est la molécule de l'automutilation ? C'est une absolue stupidité. Ce que l'on va en conclure en réalité, c'est que dans un comportement aussi complexe que celui qui peut être perturbé pour aboutir à l'automutilation, entre en jeu des centaines, peut-être des milliers de gènes, des centaines, peut-être des milliers de voies métaboliques, et que la perturbation d'une de ces voies métaboliques empêche le fonctionnement du système. De la même manière que simplement enlever une bougie d'une voiture empêche la voiture d'avancer sans que la bougie soit la pièce de la locomotion de la voiture. Le fait qu'un gène perturbé entraîne une conséquence sur la cognition ou sur le comportement ne signifie d'aucune manière que ce gène détermine la cognition ou le comportement. Enfin, revenons au mécanisme de l'évolution. L'homme qui est apparu il y a 1 900 000 ans et Homo sapiens qui est apparu il y a, on va dire, on ne sait pas, 200 000, 300 000 ans et qui a commencé à migrer d'Afrique il y a 65 à 100 000 ans, a eu un certain succès. Il a conquis le monde entier, depuis le désert de Gobi jusqu'à l'Alaska, jusqu'au nord du Canada. Comment s'y est-il pris ? Il s'y est pris parce qu'il était peu programmé. En effet, si l'homme est programmé comme l'est la souris, comme l'est la fourmi, la fourmi pourra trouver son chemin et faire une fourmilière. Elle ne fera qu'une fourmilière, c'est-à-dire qu'elle pourra coloniser un écosystème donné. Un déterminisme étroit permet de coloniser un écosystème auquel on est adapté et ce déterminisme a été sélectionné en fonction de l'écosystème. L'homme peut coloniser tous les écosystèmes. Et cela parce que ce dont il a évolué grâce à ses gènes au cours de l'évolution, c'est d'une plasticité cérébrale. C'est-à-dire d'un cerveau qui, certainement, a des comportements innés, le comportement de peur, de fuite, de soif, de faim, comportement sexuel, a quelque chose en commun entre l'homme et les autres mammifères. Mais, y compris dans ces comportements innés, L'homme a la capacité d'adapter, en fonction de l'environnement. Et l'environnement que se crée l'homme est l'environnement de la culture et de la civilisation humaine. Les gènes de l'homme sont les moyens, en réalité, de cette plasticité cérébrale qui est l'outil, qui est l'organe de desserrement de l'étau des déterminismes. Si bien que ce que dit la génétique, cela n'est pas que la limite de notre liberté, de notre libre arbitre, ce sont nos gènes, mais que nos gènes humains, sont la condition de cette liberté. Très rapidement, car le temps passe, abordons la troisième volonté, le troisième fantasme, modifier le magicien. S'il s'agit de modifier, grâce à la génétique, une cellule malade, un organisme malade en organisme sain par la thérapie génique, naturellement, ça ne pose strictement aucun problème moral et éthique, si ce n'est les problèmes moraux et éthiques que posent en général les essais thérapeutiques de techniques nouvelles et hasardeuses. Je ne parlerai pas ici de la modification des autres êtres vivants que de l'être humain, pour une raison claire, c'est que, au moins ce soir, je veux entendre éthique dans le sens limité au respect des droits de l'homme. Et ma foi, si je transforme le poireau, si je transforme le maïs, je dois respecter les droits de l'homme, incontestablement, en ne le mettant pas en danger, en respectant ses préférences dans son environnement. Mais ce faisant, je n'ai pas à respecter les droits du poireau et les droits du maïs. Donc, je ne parlerai pas des plantes transgéniques. Aujourd'hui, l'illusion est apparue que peut-être avec la génétique, on allait pouvoir non seulement guérir des maladies, mais que l'on allait pouvoir améliorer les capacités humaines. Notre littérature est pleine de ce fantasme-là. Trois manifestations récentes. Les particules élémentaires de Welbeck se terminent par, une petite astuce, tout à fait à contre-temps avec le reste du roman, par la présentation d'un monde biologiquement modifié d'hommes parfaits, asexués et immortels. Vous avez tous entendu parler probablement de la querelle de Söderdijk qui, faisant une conférence sur Heidegger en Allemagne, imaginait que grâce à la génétique, l'homme allait pouvoir améliorer ce qu'il appelle la sélection du parc humain et peut-être se modifier biotechnologiquement. Et l'inénarrable Francis Fukuyama, celui qui annonçait il y a 10 ans que l'histoire était finie puisque le libéralisme l'avait emporté dans tous les pays du monde et que le libéralisme était véritablement l'équivalent de la victoire de la sélection naturelle, ce qui d'ailleurs est une stupidité parce que l'évolution n'a pas de fin, donc même si la victoire du libéralisme est l'équivalent de l'évolution, eh bien, ça n'est pas une fin. Mais peu importe, il revenait à la charge il y a quelques mois dans Le Monde en disant « effectivement, l'histoire est finie, mais pour une autre raison, c'est que l'homme, étant à la veille de se modifier biotechnologiquement, la nouvelle histoire, ça ne sera plus l'histoire de l'homme. » Donc, on voit bien que cette croyance que l'homme est prêt de se modifier biotechnologiquement est très prégnante. C'est un fantasme total. Il en a, quand bien même il en aurait la volonté, il est dans une totale incapacité. Mais une réalité, quand elle prend cette consistance idéologique et sociale et culturelle, mérite d'être considérée. Récemment, on apprenait que l'on était parvenu à augmenter la mémoire d'une petite souris par un transfert de gènes. Et un bioéthicien américain, interrogé, Kaplan, en Pennsylvanie, interrogé sur les conséquences de cette découverte, disait « Eh bien voilà, c'est fantastique parce que on est probablement aujourd'hui à l'orée de ce moment béni où l'on va pouvoir enfin contrôler l'avenir de notre descendance et modifier les caractères de nos enfants. » Réintroduction de l'eugénisme, remplacement de l'eugénisme négatif qui élimine les mauvais gènes par un mythe de l'amélioration génétique. Kaplan dit n'importe quoi et techniquement on en est incapable, mais imaginons qu'on en soit capable. Imaginons qu'on en soit capable. Ça signifie quoi, améliorer l'homme? Naturellement, s'il s'agit de lui conférer plus de force musculaire pour remplir un travail physique ou bien une plus grande taille pour jouer au basket, c'est éthiquement inadmissible car c'est l'instrumentaliser. S'il s'agit, comme dit Kaplan, d'augmenter ses capacités mentales, ce dont on est bien incapable, imaginons qu'on soit capable, cela signifierait quoi qu'on le légitime? Ça signifierait d'un seul coup que la science changerait simplement de 180 degrés ses objectifs. Depuis bien longtemps, en tout cas depuis le siècle des Lumières, depuis le XVIIIe siècle, on considère que le but de la civilisation, sachant que les hommes sont biologiquement inégaux, de compenser cette inégalité par la construction sociale. Et la science, la médecine, lorsqu'elle soigne les faibles, contribue effectivement à compenser les inégalités biologiques afin de conférer les mêmes possibilités à chaque être. Ça, c'est le but de la science comme fait social depuis deux siècles. Avec cet objectif de créer de nouveaux lignages, voilà d'un seul coup que la science s'identifierait de nouveaux objectifs qui seraient tout à rebours de compenser les inégalités biologiques, d'en créer de nouvelles. Voulons-nous véritablement que la science devienne créatrice d'inégalités? Parfois, on l'accuse trop de l'être. En conclusion de ces quelques points qui devraient peut-être structurer votre réflexion, parce qu'il faudrait que l'on parle bien plus que cela de ces problèmes, je voudrais en arriver à ma conclusion. Ma conclusion en trois points. La génétique, comme connaissance de phénomènes naturels, de transmission des caractères héréditaires, comme moyen d'accès aux propriétés biologiques des êtres vivants, avec ce qu'elle a permis de faire, est un hymne magnifique au potentiel intellectuel de l'homme. D'ailleurs, je dirais, cet homme qui, depuis les gravures fantastiques des peintures rupestres des grottes ornées, de la grotte Chauvet jusqu'aux engins téléguidés sur Mars, a gardé les mêmes gènes et probablement, avec les mêmes gènes, si la société lui laisse les possibilités de son épanouissement, est prêt à faire encore bien des choses, sans qu'on ait besoin d'aucune manière de le traficoter. Pour autant, bien évidemment, et du fait de sa puissance, cette génétique, cette connaissance qui donne de nouvelles possibilités, crée des nouvelles responsabilités. Et si l'homme est capable d'évoluer dans sa capacité à assumer ces nouvelles responsabilités, au prorata de ses nouveaux pouvoirs, alors là, il s'agit d'une vraie évolution positive de l'homme. Troisième élément de conclusion, la génétique, contrairement à ce que prétendent des idéologues, ne dit pas que nous sommes limités par nos gènes, elle nous dit que nos gènes nous offrent les capacités de notre liberté. Le généticien, comme scientifique, a une responsabilité toute particulière, car il sait la fragilité très spécifique de sa science à être kidnappé par les bandits, ceux de la stigmatisation, ceux de la négation de l'humanité. Donc, le généticien, qui doit faire une bonne science, n'en a pas fini avec son travail quand il a fait une bonne science. Il se doit également, et je crois que c'est un devoir social fondamental, de dire ce que dit sa science, ce qu'elle ne dit pas. Et elle ne dit pas que les barreaux de votre prison, ce sont les gènes. Pour autant, si les gènes offrent cet espace d'indétermination au sein duquel se loge votre liberté, votre libre arbitre, la génétique ne dit pas non plus ce qu'est la base morale à laquelle nous nous arrêtons. Ça, c'est notre liberté. Par conséquent, lorsque certains se proposent dans une conception étroitement, estotement scientiste, d'offrir une démonstration scientifique de l'antiracisme, de l'égalité des races ou de la dignité, ça ne convient pas non plus. Il n'y a pas de définition scientifique de la dignité. Et il est bon qu'il n'y en ait pas. La croyance que j'ai que tous les groupes humains, quels qu'ils soient, ont droit à une égale dignité est une conviction morale, et j'ai génétiquement la capacité de parvenir à cette conviction morale. Heureusement, ça n'est pas une science, car comme dirait Karl Popper, le propre d'une science, d'un énoncé scientifique, est d'être réfutable. Or, le fait que la dignité des hommes est égale est irréfutable. Merci.
Mmh.